Alléluia. Dieu soit loué pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il fera, pour que tout ce qu'il fera éternellement. Amen. Je continue donc dans l'enseignement de l'évangélisation. Plus que l'enseignement, je ne vous cache pas que le but que je poursuis en donnant ces quelques conseils bibliques, c'est que nous puissions tous être investis dans l'évangélisation, tout azimut, parce que le Seigneur le veut, parce que nous sommes aussi dans des temps de la fin et que nous ne savons pas si le jour continuera à rester, la nuit vient, on ne pourra plus rien faire. Mais Dieu soit loué, nous sommes encore dans un pays des droits de l'homme, dans un pays où il y a la liberté religieuse, où nous pouvons parler de Jésus sans être amenés à la prison ou être jugés. Et donc, profitons-en, car c'est dans ce laps de temps que le Seigneur veut nous voir aussi agissant sur le terrain. Donc, je vous propose de faire la première lecture dans Éphésiens, chapitre 4, et le verset 11 et 12. Voilà Jésus, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Nous lisons dans 1 Pierre, chapitre 2, et le verset 9. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Il faut que cette bonne nouvelle soit annoncée dans le monde entier. Alors c'est vrai, on peut de suite dire, voilà, il y a des serviteurs de Dieu. Je vous en parlais dimanche dernier. On peut penser qu'il faut prier le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. C'est ce qui est à faire, bien sûr. Mais il faut le voir dans le sens large. Il faut prier pour que Dieu envoie tous les ouvriers dans la moisson, c'est-à-dire qu'il touche chacun des membres de son corps, qui est l'Église, chacun des chrétiens, et que nous soyons envoyés dans la moisson. Alors, pourquoi j'ai pris ce texte de Éphésiens ? Il y a des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, et tous sont donnés comme des ministères à l'Église, en vue qu'ils apportent le perfectionnement au sein et en vue de l'œuvre du ministère. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ranger l'évangélisation du monde au niveau des évangélistes, mais les évangélistes doivent aussi apporter le désir, eh bien, d'évangéliser à tous les chrétiens en vue de l'œuvre du ministère. C'est cette formation qui fait que, eh bien, maintenant, nous devons aller, et cela doit déboucher, à l'évangélisation de tous les êtres humains, nos contemporains, notre génération. Autant que l'on se regarde que la personne, elle est 100 ans ou qu'elle est, eh bien, 5 ans ou 6 ans, nous devons porter l'évangile à tout le monde. L'apôtre Paul disait à Timothée, « Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui, eux, soient capables aussi de l'enseigner aussi à d'autres. » Et donc, nous voyons que l'évangile, le message que nous avons reçu, être sauvé, ça doit être une transmission. Ce n'est pas quelque chose que l'on doit garder pour soi, c'est bien de témoigner, parce que c'est la volonté du Seigneur, la transmission, la manière d'atteindre, je crois, tous les êtres humains, de leur parler de Jésus, même si le Seigneur n'a pas dit que nous devons aller et convertir le monde entier. Il a dit « Allez et annoncez la bonne nouvelle à toute la création ». Et puis il y a celui qui croira, et puis il y a celui qui ne croira pas. Mais cependant, nous devons tous aller, et pour atteindre tous les êtres humains, qu'au moins chacun ait eu sa dignité et son occasion d'être confronté à l'Évangile, qu'il le reçoive ou qu'il le rejette. Alors, beaucoup ne viennent pas à l'Église, c'est parfois une minorité qui vient à l'Église. Mais j'ai écrit, le plus grand nombre de l'Église doit aller à eux. Nous ne sommes pas chrétiens pour vivre en ghetto, pour vivre, excusez-moi, en vase clos, mais tout ce qu'il se passe au niveau dans un culte, dans un contexte où nous sommes rassemblés, c'est en vue d'avoir la force, d'avoir la vision, d'avoir la passion des âmes, l'amour de notre prochain, et de pouvoir aller à eux. Et c'est vrai que chacun d'entre nous se trouve dans un contexte où il peut rendre témoignage, eh bien, dont d'autres ne peuvent pas se trouver là où vous êtes. Un pasteur ne peut pas se trouver dans le contexte familial ou professionnel ou dans la rue ou le quartier ou le village où vous êtes. Mais vous, vous y êtes. Et vous êtes donc l'Église qui va jusqu'à eux pour porter le message de l'Évangile. Alors, j'ai aussi pensé, en regardant la parole de Dieu, que c'est vrai, et j'en parlerai la prochaine fois, ça sera le dernier message d'enseignement pour l'évangélisation, que le Seigneur faisait des miracles, des guérisons, des prodiges. Et ça, c'est une accélération extraordinaire de l'évangélisation. Vous n'avez qu'à que lire les Actes des apôtres. Beaucoup de miracles, de prodiges se faisaient et le nombre des disciples augmentait de plus en plus. Et ça, j'en parlerai la prochaine fois. Mais cependant, pour revenir aux évangélistes, pour revenir à ceux qui ont reçu les ministères, eh bien, rien, aucun évangéliste ne pourra faire quelque chose de semblable à une église qui témoigne, une église entière qui témoigne. Alors si aujourd'hui, eh bien, on n'en juge que, on peut être, je ne sais pas, 300, 350. Alors j'ai fait un calcul, vous allez me dire, les chiffres, c'est des chiffres. Mais c'est vrai que des fois, les chiffres, eh bien, peuvent nous interpeller et nous faire voir la réalité sur le terrain. Si, par exemple, on fait deux missions d'évangélisation dans l'Église, gloire à Dieu, on va se dévouer, on va aller d'un côté, de l'autre, on va distribuer des prospectus et essayer de faire tout. Et puis, on va peut-être, au final, faire un bilan. Eh bien, pendant le cadre de cette mission d'évangélisation, il est venu 5 personnes nouvelles. Gloire à Dieu, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Mais si on fait deux missions, on aura peut-être 10, 20 personnes nouvelles. Mais voilà où je veux en venir. Imaginons que 300 personnes parlent à une âme nouvelle chaque semaine. Je ne lève pas trop haut la barre, mais quand même c'est possible, c'est accessible. Imaginons cela en une année, c'est-à-dire 52 semaines, multiplié par 300 personnes, nous aurons atteint 15 600 personnes qui auront entendu le témoignage et qui auront eu leur grâce pour pouvoir se convertir à Jésus. C'est pour dire que nous sommes un potentiel d'évangélisation qui parfois, entre guillemets, n'est pas exploité et le Seigneur nous appelle les uns et les autres à parler, à rendre témoignage, et c'est vrai que par ce moyen, nous en viendrons à la semaille, eh bien, nous récolterons, même si parfois nous avons été déçus de notre investissement dans l'évangélisation et nous n'avons pas toujours eu du succès, vous allez voir qu'un jour ou l'autre, déjà sur le terrain, nous le verrons, mais c'est sûr, nous le verrons dans l'éternité, ce qu'aura rapporté l'évangélisation. Voyez, certains se sont amusés à calculer, je ne l'ai pas vérifié, mais je crois que c'est vrai, quand on regarde Jésus qui aussi a fait l'évangélisation personnelle, il a parlé à des personnes. Et juste en tant que comparaison, eh bien, certains ont découvert que dans les évangiles, Jésus aurait parlé à 28 individus et n'a prêché que 4 sermons. Bien sûr, le Seigneur a fait des miracles extraordinaire que le monde ne pourrait pas contenir si on en racontait, c'est vrai. Mais c'est pour dire que votre témoignage, parler de Jésus, c'est tellement important, frères et sœurs. Ne gardez pas ce message que vous avez le message, donnez-le de tout votre cœur. Juste une image, aujourd'hui on décide de remplir d'eau 10 bouteilles d'un litre, on va les mettre devant nous, et voilà qu'on remplit un seau d'eau qui fait 10 litres aussi. Alors, il y en a un qui dit, moi, eh bien, sur ces 10 bouteilles, je vais jeter le seau d'eau, et puis on va constater. Puis l'autre dira, moi, je vais prendre le seau de 10 litres, et je vais m'arrêter devant chaque bouteille pour les remplir, jusqu'à la 10e. Après, nous allons nous reculer et faire le constat. Quelles sont les bouteilles qui ont vraiment reçu l'eau et qui ont été remplies? Eh bien, c'est celui qui a pris le temps de verser dans chaque bouteille. Et vous savez, frères et sœurs, l'évangélisation personnelle, c'est important. Oui, prendre un évangile, oui, peut-être eh bien demander à croisade de maison en maison qui vous donne des possibilités de porter le message imprimé dans les maisons. Tous les moyens sont bons, mais nous sommes les porteurs de la bonne nouvelle et je sais que les premiers chrétiens l'avaient très bien compris. Partout, ils prêchaient et disaient l'évangile. Je vous le disais dimanche dernier, l'église d'Antioche, là où on appelait les premiers disciples chrétiens, a été, pour ainsi dire, fondée. C'est Jésus qui bâtit l'église. Mais par les disciples qui, malgré qu'ils étaient dispersés, malgré qu'ils étaient persécutés, parlaient de l'évangile partout. Et ils ont parlé aux païens. Et c'est là que une foule nombreuse s'est réunie et sont devenus chrétiens. Alors, juste sans polémique, mais quand même, juste vous citer quelques témoignages où des occasions, parfois, ont été manquées. Et on raconte l'histoire de Mohammed, qui était dans une grande recherche de Dieu en l'an 570. Il cherchait tellement. Mais, d'après l'histoire, l'Église était éteinte et très peu d'efforts étaient faits pour témoigner. C'est en 612, 42 ans après, qu'il dit recevoir ces révélations parce que, finalement, l'Église se préoccupait de bien d'autres choses que de rendre témoignage. Et je voudrais vous dire que parfois, on peut ne pas occuper le terrain et on laisse eh bien, sortir des choses. On voit la montée du spiritualisme actuellement. Les gens n'ont pas peur de consulter des guérisseurs, des voyants, des radiesthésistes, de se tourner vers des religions orientales, bouddhisme, tout cela. Et on se dit, mais quand même, on est là, figé, on est là, devant un constat, un état des lieux, en disant « mais voyez, c'est comme ça ». Je crois que nous avons besoin de saisir l'occasion de parler de Jésus, frères et sœurs. Vous savez, un jour, on raconte aussi qu'il y avait un chrétien fidèle qui, tous les dimanches matin, il passait devant, à pied, devant une maisonnette et il y avait un jeune garçon avec lequel il discutait en disant bonjour poliment tous les dimanches matin. Et puis, cet homme ne lui a jamais parlé, viens à l'école du dimanche. Il ne lui a jamais parlé de Jésus, mais il allait au culte, chemin faisant, et disait poliment le bonjour, c'était tout. Plus tard, en grandissant, ce petit garçon, qui était dans la maisonnette, s'appelait Joseph Smith, et il est devenu le fondateur des Mormons. Ah, parfois, on peut passer à côté de la vérité. Nous devons la dire. Nous devons ne manquer aucune occasion, frères et sœurs, parce qu'il se pourrait bien qu'il y ait encore des choses qui se lèvent aujourd'hui de manière à ce qu'on soit submergé, mais le témoignage, avançons, je le disais dimanche, ne maudissons pas les ténèbres, mais allumons une bougie partout, et bien en témoignant, et bien quand la bougie s'allume, obligatoirement les ténèbres se retirent. Évangélisons. Dire aux autres la bonne nouvelle, eh bien, finalement, c'est l'évangélisation non-stop. On dit, est-ce que votre église évangélise ? Alors, on regarde le programme, réunion d'évangélisation, tout ça, mais c'est très bien. Et c'est ce qu'il faut continuer. Mais l'évangélisation non-stop, ça nous incombe à chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, non-stop, toutes les occasions, à tout moment. Nous sommes au contact de gens perdus, de gens malheureux, de gens qui peut-être vont faire l'irréparable. Certains s'autodétruisent. Eh bien, témoignons, saisissons les occasions. Certains me diront, je ne sais pas témoigner. Je vous le disais aussi dimanche. Eh bien, Philippe a dit à Nathanaël, viens et vois. Et c'est vrai qu'on peut amener les personnes à la réunion, mais aussi on peut leur parler en quelques mots ce que je vivais avant. Comment j'ai pris conscience? Qu'ai-je fait pour être sauvé? Et ce qui s'est passé dans ma vie? Nous pouvons, ce n'est pas obligé de bombarder les gens à coups de versets bibliques, mais de leur donner le témoignage comme quoi Jésus sauve. Alléluia. Je voudrais dire que nous devons semer. Il y a l'Évangile, nous devons le semer partout, la bonne nouvelle, parler de Jésus. Et il y a un principe agricole, le principe du jardinier, de l'agriculteur. C'est, premièrement, l'agriculteur, il saisit le fait qu'il va semer une bonne semence. Et s'il sème une bonne semence, il est certain qu'il récoltera une bonne production. Eh bien, nous sommes des semeurs. Le semeur se leva et sortit pour semer. Nous devons savoir que l'Évangile, il est incomparable. Il n'y a pas d'autre. L'Évangile, c'est la puissance même de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il n'y a pas un autre Évangile. Et c'est cette bonne semence dont nous devons être convaincus. Que de gens qui parlent pour rien. Que de discours qui n'amènent à rien. Quand on part, tout est fini. Il y a avant-hier, je ne m'attendais pas à cela. Il a été question d'un enterrement civil. La personne décédée n'avait pas souhaité que ce soit religieux. Cependant, là au milieu de ma ferme, dans ma campagne, on est venu me dire, est-ce que tu voudrais parler. Alors j'ai dit, mais vous voulez que je parle de qui? Du défunt? Ou en tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur? Fais comme tu veux. Et je me suis trouvé à ce moment-là, eh bien, dans cet enterrement, les pompes funèbres avaient porté le haut-parleur, il y avait 300 personnes, et j'ai pu annoncer l'Évangile, Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde. Et des personnes sont venues me voir et m'ont dit que ce qu'ils ont entendu, c'est vraiment bien. Il y en a d'autres qui me l'ont parlé encore hier soir. Je dis, c'est vrai, la bonne semence, nous devons la répandre partout. Il y aura des occasions rêvées, il y aura des occasions où il faut se commander d'aller évangéliser, il faut se pousser. Mais de toute façon, le semeur, s'il dit, ah, il fait trop froid, au moment de la récolte, s'il n'a pas semé, il n'y aura rien. Et on peut trouver des prétextes, mais cependant, allons et semons, parce que c'est une bonne semence, le Seigneur la fera récolter. Pas dimanche, mais l'autre après, j'essaierai de mettre une conclusion à ces enseignements d'évangélisation en vous parlant, comme je l'ai dit, des prodiges et des miracles. Je ne veux pas en parler seulement, mais je veux le croire et ça va nous aider à accélérer l'évangélisation qui pourrait aussi toucher la ville, toucher les campagnes, toucher la nation, toucher le monde. Donc nous devons nous attendre à cela, mais je veux dire que cette semence, elle produira. Ce que tu sèmes, tu le moissonneras. Amen. Ça, c'est le principe agricole aussi. Si je sème du blé, je ne vais pas m'attendre à récolter de l'orge ou de l'avoine ou du tournesol. Ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Mais voilà le problème. C'est que des fois, le semeur, quand il a semé, à un certain moment, il ne voit plus rien, ni dans son grenier, ni dans le champ. Il n'y a plus rien. Et c'est vrai que c'est ce qui nous arrive. On parle de Jésus, on va rendre témoignage, et puis rien. Et j'ai vu quand même, on va le lire, comme ça, ça nous permettra de... Dans Marc chapitre 4, et le verset 26, Jésus dit encore, « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît, sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » Amen. C'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui fait germer. Même pour l'agriculteur, très terre à terre. Si ce n'est pas Dieu qui met le germe, si ce n'est pas Dieu qui donne la vie à la semence, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut forcer les doses, la fumure, d'engrais, il peut tout faire. La vie, c'est Dieu qui la donne, même pour le grain de blé. À combien plus forte raison le Seigneur a dit qu'il va confirmer sa parole. Et alors qu'on veille, qu'on dorme, qu'on se tracasse, qu'on se soucie, je crois que tout cela, il faut le passer en prière, c'est vrai, mais nous devons avoir confiance que le Seigneur veille sur sa parole pour la confirmer. Et ça, frères et sœurs, je veux vous le dire de tout cœur, un jour, nous moissonnerons, même si pour le moment tout est vide, tout semble ne pas marcher, un jour où nous le verrons, mais nous le verrons dans le ciel, toutes les âmes qui ont été sauvées en raison de notre témoignage, de notre évangélisation personnelle. Alléluia. Le semeur sorti pour semer, ça veut dire qu'il sent beau les pieds de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles, que l'on voit venir pour nous annoncer des bonnes nouvelles. C'est une affaire de déplacement. Il faut bouger. Et c'est vrai que, il faut savoir s'organiser de manière en ce que on dit, tiens, je dépêche cette heure-là pour aller évangéliser. Soit dans la rue, soit d'un côté, de l'autre, il faut se déplacer. Et il dit, ça en a l'air partout, prêcher la bonne nouvelle. Et le Seigneur confirmait sa parole par les miracles qui l'accompagnaient. Je crois quand même, mais j'en parlerai le prochain dimanche, l'autre, c'est que quand on bouge, quand on va, le Seigneur accompagne sa parole par aussi les miracles. Et nous devons nous y attendre. Parfois, vous vous bougez, vous êtes invité à un moment donné à aller voir une personne qui est malade. C'est vrai que c'est bien de dire aux serviteurs de Dieu, venez, priez pour la personne, elle le veut. Mais vous, déjà, vous devez savoir que vous pouvez prier pour les malades et que le Seigneur peut entendre votre prière et répondre aussi. Alléluia. Et c'est pour cela que nous devons aller nous déplacer et le Seigneur confirmera sa parole. Celui qui sème peu, il est dit dans la parole de Dieu, de Corinthiens 9, verset 6, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Cela est dit dans le contexte de l'offrande pour les pauvres, mais c'est un principe de semence. C'est-à-dire que l'agriculteur qui va ensemencer un hectare de blé, l'autre, il va ensemencer 100 hectares de blé. Qui va récolter le plus ? Semez abondamment, moissonnerez abondamment. Et nous devons ne pas être, je dirais, avares dans ce domaine. Nous devons répandre partout l'Évangile. Nous ne savons pas quand ça germera, nous ne savons pas quand sera la moisson, mais nous savons que dans l'étendue où nous allons, eh bien, le Seigneur voit les âmes, et ce sont les âmes qui avaient tellement besoin de cela. Psaume 126, il est dit que celui qui sème avec larmes moissonnera un jour avec chant d'allégresse. Semer quand ça nous plaira, mais semer aussi quand ça nous déplaît. Parce qu'il y a parfois des moments où on n'a pas envie, on a des problèmes, on a des difficultés. Peut-être que même maintenant, pendant que j'annonce la parole de Dieu, eh bien, certains disent, eh bien, moi j'ai d'autres problèmes que celui d'évangéliser. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Servez le Seigneur. Annoncez le témoignage. Et parfois, tout semble être contre, défavorable, mais en toute occasion, favorable ou défavorable, annoncez votre témoignage, évangélisez, et parfois, on arrive et on revient de chez soi, mais joyeux, content. On a senti une utilité de notre existence ici-bas parce qu'on a dit aux autres, eh bien, ce que nous devions leur dire pour les sauver, pour les amener au paradis éternel après leur vie ici-bas. Alors, vous savez, frères et sœurs, maintenant je sors du domaine de semer. Qu'est-ce qui empêche ? Qu'est-ce qui empêche ta vie d'évangéliser ? Alors, j'ai remarqué, qu'est-ce qui nous empêche d'évangéliser dans certains pays ? C'est les gouvernements. C'est interdit. Comme le faisait remarquer quelqu'un, eh bien, beaucoup aujourd'hui de migrants arrivent s'exiler en Europe parce que de toute façon, ils viennent chez nous, ils viennent à nos portes, mais aussi, qui sait si le Seigneur ne nous les envoie pas pour que l'on les évangélise, parce que chez eux, nous nous serions fait égorger ou emprisonner si on était allé les évangéliser. Et c'est vrai que nous avons la grâce que le gouvernement ici ne nous empêche pas d'évangéliser. Alors, qu'est-ce qui nous empêche d'évangéliser ? Eh bien, c'est Satan. De toute façon, Satan, il ne veut pas. Il veut que nous propagions surtout les mauvaises nouvelles, des mauvaises choses. Il veut que notre bouche annonce des choses qui ne sont pas bonnes. Mais il est dit que notre bouche, notre langue doit servir à annoncer les oracles de Dieu. Et puis, vous savez, Satan, il fera tout pour qu'on n'évangélise pas. Mais une fois de plus, je veux dire, Jésus a vaincu Satan et il ne peut pas, l'ennemi, eh bien, nous empêcher d'évangéliser. Quel que soit tout ce qu'il peut faire, eh bien, Christ, vainqueur, dit, allez, c'est un ordre de mission que je t'ai adressé, tu vas y aller et moi je te donnerai ce que tu as besoin pour aller jusqu'au bout. Souvent, qu'est-ce qui nous empêche d'évangéliser ? Je le disais tout à l'heure, ce sont les soucis de la vie, les inquiétudes. Les inquiétudes. Jésus en a parlé, l'apôtre Paul, il a dit, ne vous inquiétez de rien. Et parfois, on n'est vraiment pas disposé. On est chargé, on a des chagrins, tout cela. Mais le Seigneur dira, tu vas t'occuper d'aller porter ma parole, tu vas t'occuper d'évangéliser, de te soucier des perdus. Et moi, je m'occupe aussi de tes affaires. Et sachons mettre tous nos soucis entre les mains de Dieu pour dire je veux être libre pour accomplir le ministère dont j'ai été formé et le ministère, c'est-à-dire le service que le Seigneur t'a donné, c'est de porter partout l'Évangile. Vous savez, ce qui nous empêche, c'est parfois la honte. Jésus a dit, celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant Dieu mon Père. Et parfois, vous savez, on a honte, on a peur. On a peur même de perdre nos amis parce qu'on leur parle de l'Évangile. Tant pis, qu'à cela ne tienne. Peut-être certaines personnes vont nous fausser compagnie, mais en réalité, nous aurons fait la plus grande des choses au monde, c'est de leur donner la parole par laquelle ils peuvent être sauvés. Si mon voisin, c'est un exemple, était en train de se mourir du cancer, et que moi, à côté, d'une part, j'ai la bonne santé, mais j'ai aussi le remède, j'ai le médicament que j'ai trouvé et qui peut le guérir. Mais voilà que je ne lui donne pas. Je le laisse partir comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Non assistance à personne en danger, c'est même criminel. Voilà, c'était un exemple. Mais nous avons le message par lequel les gens vont éviter l'enfer et vont aller au paradis. Et c'est pas rien d'éviter l'enfer, c'est les temps de feu, le tourment éternel. Les gens sont en perdition. Mais nous avons le médicament, dirais-je entre parenthèses. Nous avons la solution. Et la solution, c'est Jésus. C'est lui qui donne la vie éternelle. C'est lui qui pardonne les péchés. Alors, tant pis si parfois on perd nos amis. Qu'est-ce qui peut empêcher? C'est parfois le manque de discipline. Et je me suis rendu compte que, quelque part, eh bien, on sait qu'il faut évangéliser. Mais on ne le fait pas. Et pourquoi? Ça ne tient pas à grand-chose. C'est que parfois, il faut se donner le but. Il faut se commander. De toute façon, je dois évangéliser. Je dois rendre témoignage. Si on n'est pas ferme à l'égard de soi, on se dorlote, on se cajole, on ne fait aucun effort, eh bien, Seigneur, j'ai cette mission, et cette mission, eh bien, je me commande. Oh, il y a des fois, ça passe tout seul, on va aller témoigner, ça tombe comme ça, c'est sur un plat que nous est servi l'occasion, mais des fois, eh bien, on a besoin de se booster, de se commander. Eh bien, je crois que parfois, certains n'évangélisent pas parce qu'ils n'ont pas cette fermeté de se dire « il faut et je veux y arriver ». De toute façon, je vous dirais que ce n'est pas en écoutant tout ce que je dis que si on dit « Amen » et qu'on referme le sujet comme ça, que vous allez avancer. Mais dites-vous maintenant, je prends acte et je vais tous les jours, je vais à tout moment, je vais évangéliser. Et même si j'ai dit au début que « et si on parlait à une nouvelle âme chaque semaine », c'est déjà pas mal, mais il faut se le commander. Il faut mettre un plan d'action et cela, le Seigneur nous aide ensuite. Et parfois, des personnes aussi n'évangélisent pas parce qu'ils ne sont pas en règle. Ils ne sont pas en règle avec le Seigneur. Jésus a dit « suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes ». Vous savez que quand Pierre a suivi Jésus de loin, eh bien lui n'a pas témoigné. Il a même témoigné qu'il ne connaissait pas Jésus. Suivez-moi, soyons près de Dieu. J'en parlerai la prochaine fois sur la prière, le rôle de la prière dans l'évangélisation. Et souvent, eh bien, c'est ce qui fait que le bât blesse. On n'évangélise pas parce que ça ne va pas à l'intérieur. Parce que la conscience est mauvaise, parce qu'on se dit à quoi bon, puisque moi, eh bien, qu'à cela ne tienne, il ne faut pas perdre du temps. Nous l'avons entendu ce matin, il faut se repentir, il faut se mettre en règle avec Dieu, et vous allez voir après cette envolée et ce désir de parler de Jésus. Et puis, vous savez, parfois, on n'évangélise pas, vous savez pourquoi? Parce qu'on ne demande pas que l'évangéliste puisse nous habiter pleinement. Et cet évangéliste, c'est le Saint-Esprit. Le Seigneur l'a dit, qu'il nous donnerait une puissance, le Saint-Esprit, et que ce n'est pas un esprit de timidité, mais de force, d'amour, de sagesse. Et c'est vrai que quand on le demande, quand on le reçoit, eh bien, c'est vrai qu'il n'y a plus d'empêchement. Le Saint-Esprit nous pousse, le Saint-Esprit dans l'amour, eh bien, l'amour de Christ nous pousse. Vous savez que les disciples ont dit, « Seigneur, quand rétabliras-tu le royaume d'Israël ?» Et ils voulaient savoir quand tu reviendras, quand ça sera la fin du monde. Et aujourd'hui, on parle, bien sûr, est-ce que ce n'est pas ce dernier événement qui va faire que Jésus va revenir? Le Seigneur leur parlera d'évangélisation. Acte 1:8, de suite après, il leur dira, ce n'est pas à vous de connaître le temps, ni les moments. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. En réalité, le Seigneur ne veut pas qu'on soit là en train de, eh bien, de penser ceci, cela, est-ce que c'est cette prophétie ? C'est bien pour tous ceux qui peuvent comprendre la parole de Dieu et nous la dire, mais surtout, le Seigneur nous renvoie à aller jusqu'aux extrémités de la terre en recevant la puissance du Saint-Esprit. Et puis, vous savez, maintenant, je voudrais dire que pourquoi on est empêché d'évangéliser parfois ? On a perdu la sensation de ce qu'est la vie sans espérance et sans Dieu. Parfois, on a oublié, en regardant les autres, ce qu'on vivait avant. On était sans Dieu, sans espérance, sans aucune certitude. La peur de la mort, l'au-delà, mystère, qu'est-ce qui va se passer? Et on a oublié cela depuis qu'on est invité par Jésus, depuis qu'on le connaît, on vit tranquille, on est en paix, on sait qu'on a la vie éternelle. Et parfois, on oublie que notre semblable, d'où qu'il vienne, partout, quel que soit leur âge, ils sont perdus, sans espérance et sans Dieu, frères et sœurs. Alors, je voudrais dire que pensons-y, ayant beaucoup de compassion, ayant beaucoup de se mettre à la place des gens. Je me dis, mais quand j'étais perdu, je n'avais aucun espoir. Je courais et je me disais, à quoi bon ? D'ailleurs, l'enterrement que j'ai fait la dernière fois, il y a deux jours, eh bien, cette personne, toute sa vie, elle a vécu beaucoup pour l'argent, pour aussi du m'as-tu vu. Et je me dis, quelque part, eh bien, finalement, elle était sans espoir. C'est vrai qu'au dernier moment, eh bien, j'ai pu prier avec cette personne, lui annoncer l'évangile. Dieu sait ce que ça aura fait. Mais je me dis que quand même, quand on est sans espoir, j'ai vu cette personne s'éteindre à petit feu et après rentrer dans le coma. Mais je me dis, quand tu n'as pas d'espoir, quand tu ne sais pas, eh bien, les gens sont comme ça. Quelqu'un a dit, ah, si aujourd'hui, c'est une image, on relâchait ceux qui sont actuellement dans le séjour des morts, Luc chapitre 7, verset 27, il est dit que le mauvais riche, il s'inquiétait. J'ai 5 frères encore dans la maison. Qu'on leur atteste qu'ils ne viennent pas ici. Alors quelqu'un a dit, si on relâchait ceux qui sont aujourd'hui dans le séjour des morts pour revenir sur la terre, on aurait là l'équipe de témoins les plus motivés et les plus énergiques de l'histoire. Parce que parfois, on peut penser que bon, ben, on est mort et puis c'est fini. Pas vous, chrétiens. Mais quand même, parfois on met des nuances sur l'enfer, on essaye de ne pas vouloir y penser. Mais c'est un lieu effrayant, c'est un endroit de tourment, c'est quelque chose de terrible. Et puis il n'y a pas d'âge, on laisse la montre, on rentre dans l'éternité, c'est quelque chose de terrible. Eh bien, pensons à cela pour pouvoir évangéliser. Enfin, frères et sœurs, j'ai lu dans le dernier Serviteur de Dieu que le frère Olé nous donne et qui est tellement bien fait. C'est Melvin Hodge qui dira, s'agissant des écoles de théologie, des écoles bibliques, de la préparation des serviteurs de Dieu, il disait cela, la préparation intellectuelle et théologique doit être accompagnée d'une évangélisation pratique. C'est là que beaucoup d'instituts théologiques ont failli. Se remplir la tête, savoir beaucoup de choses sur Dieu, c'est bien, mais l'évangélisation, c'est important parce que chacun doit être engagé en cela. Et il dira, on devrait avoir une vigoureuse extension vers l'évangélisation. Serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, nous sommes tous dans le ministère qui est préparé par les ministères d'hommes, par les serviteurs de Dieu, en vue justement de servir dans l'évangélisation. Ce n'est pas les longues leçons qui convainquent, mais l'efficacité de sa pratique. Tout ce que je vous ai dit, ça ne sert à rien s'il n'y a pas la pratique. D'après des calculs, on retient 90% de ce que l'on découvre et expérimente ou pratique. Parfois on oublie, je ne sais pas ce qu'il a prêché, je ne sais pas tout. On a lu la parole de Dieu, je ne sais même pas ce que j'ai lu. Mais on retient 90% de ce qu'on expérimente, de ce qu'on pratique, de ce qu'on découvre. Et frères et sœurs, je veux vous le dire, allez, annoncez, eh bien témoignez, frères et sœurs. Quelqu'un disait, allez en apprenant et apprenez en allant. Et c'est vrai que plus on va, plus on évangélise, plus on voit ce que le Seigneur veut faire avec nous et se sert de nous. On oublie souvent ce que l'on n'a pas l'habitude de faire. Et quelqu'un disait, le meilleur emploi du temps de la vie est de le passer pour quelque chose qui lui survivra. Et vous savez, frères et sœurs, on va laisser beaucoup de choses. Lisez Ecclésiaste et vous verrez Salomon qui dira, vanité des vanités, tout est vanité. Il avait beaucoup de regrets de tout ce qu'il avait fait, de tout ce qu'il... Mais quand on travaille pour l'éternité, c'est Billy Graham qui disait qu'il y a des minutes qui valent des éternités. C'est quand on évangélise, quand on dit le témoignage. Et c'est vrai que ça nous survivra. Ça survivra à notre vie parce que nous verrons aussi le résultat. Nous verrons les âmes qui seront sauvées. Frères et sœurs, plus que la demi-heure a passé, mais je vais vous dire vraiment, le Seigneur veut que tous les hommes soient sauvés. 2 Timothée 1, lisez-le. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Je ne vais pas faire des calculs, je ne vais pas dire oui, mais il est écrit dans l'Apocalypse. Je veux, Seigneur, savoir que tous les hommes, tu veux les sauver. Le Seigneur dira, je ne contesterai pas toujours. Quand devant moi tombent en défaillance les esprits et les âmes que j'ai faites. Ésaïe 57, verset 16. Malgré les reproches sur les 7 églises d'Asie que le Seigneur a fait, à 5, il leur a reproché certaines choses, mais malgré tout, il fera tout pour leur dire « repentez-vous ». Ce qui veut dire que le Seigneur ne veut que personne se perde. Et dans l'évangélisation, il faut aussi penser aux reperdus. Les reperdus sont des gens que l'on peut aussi encore aller chercher. Et le Seigneur veut aussi les rattraper. Le Seigneur n'a pas dit son dernier mot, et il est dit de toute façon dans 2 Pierre 3:9, croyez-moi, le Seigneur patiente envers tous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Il appelle tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Mais comment pourra-t-il les appeler en tout lieu? Comment entendront-ils? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler s'il n'y a personne qui prêche? Ainsi, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parfois, je me dis, quand je suis devant quelqu'un qui est au stade terminal, je ne vais pas lui faire une prédication, un sermon, mais en quelques mots, je me souviens toujours du brigand sur la croix. Il n'a pas dit grand-chose et je leur dis, appelle Jésus. Puisqu'il est dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Appelle Jésus, dis-lui, sauve-moi, pardonne-moi. Et cette personne peut se tourner vers le Seigneur aussi. Vous trouverez des vous êtes avec des personnes aujourd'hui, des gens, frères et sœurs, avec qui même le pasteur ne sera jamais. Ils sont à côté de vous, vous les voyez, et c'est à vous de les évangéliser. Vous êtes dans une famille, nous devons évangéliser des personnes les plus âgées jusqu'à nos enfants, nos petits-enfants. C'est le Seigneur qui a dit que lui, il fait croître. Semez, et le Seigneur fera croître. Et je termine en vous disant juste l'annonce pour, pas dimanche, mais l'autre après, pas le dimanche qui vient, mais l'autre après, eh bien, je vais vous parler du rôle de la prière dans l'évangélisation, ce que la prière peut déclencher, et puis le mystère de ce que Dieu ne fait rien sans la prière, et toute œuvre d'avancer dans l'évangélisation prend son départ dans une vie de prière. En tout cas, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous bénisse, et que, au fond, si vous avez retenu quelque chose de ce que je vous ai dit, je vous en supplie, allez et pratiquez, et vous allez voir que les 90 et les 100% de ce qu'il est dit sur l'évangélisation, vous le savez et vous le vivez, que Dieu nous aide. Seigneur, que ta parole puisse nous pousser vers l'avant. Nous sommes une race élue maintenant afin d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa ravissante lumière. Ô Seigneur, c'est aussi un privilège, c'est une grande joie, c'est un élan, c'est une carrière qui nous est ouverte. Je te supplie, Seigneur, que à 100% chaque membre de l'Église puisse évangéliser, et Dieu fasse que si même c'était une personne en se commandant que j'évangélise chaque semaine, Seigneur, gloire à toi pour tout ce que nous allons voir, pour la multiplication des rachetés. Ce n'est pas le nombre qui nous importe, c'est vrai, mais Seigneur, c'est le nombre et chacun qui est perdu et qu'il soit sauvé. Au nom de Jésus, amen.